Pascale Nivelle, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a une vie avant la Chine. Quelle était la vôtre ?
J'ai eu une vie de journaliste essentiellement parisienne. J'avais jamais été en poste à l'étranger avant. Mais donc je suis depuis presque une vingtaine d'années à Libération, donc une des anciennes du journal aujourd'hui. Et j'ai fait à peu près tout ce qu'on peut faire dans ce métier en France, de la politique, de la société. J'ai travaillé pendant 7 ans à la page portrait dont je m'occupais. Et ça a été tout à fait passionnant, mais un petit peu confinée à Paris. Et j'ai eu envie à un moment donné de bouger et de connaître l'expérience du reportage à l'étranger et surtout du correspondant. Parce que ce qui me plaisait, c'était de vivre dans un pays et d'en comprendre les choses au quotidien.
Mais alors pourquoi la Chine ? Parce que le monde est vaste.
La Chine était un sujet qui m'intéressait sur le plan personnel. J'étais venue plusieurs fois en voyage, sac à dos. J'avais fait plusieurs mois le long du Yangtze, dans l'ouest de la Chine. Enfin, ça a toujours été un pays qui m'a attirée, mais dans lequel j'ai toujours pensé qu'il était extrêmement difficile de travailler. Et très honnêtement, ça ne m'était pas venu à l'idée. J'ai surtout profité d'une opportunité à Libération où il y a en tout et pour tout 5 postes de correspondants, et quand celui de la Chine s'est libéré, j'ai pris la Chine.
Alors à quoi ressemble la vie quotidienne d'une journaliste française en Chine ?
C'est un travail... Moi je travaille seule avec une assistante puisque mon niveau de chinois ne me permet pas de travailler toute seule, donc j'ai besoin d'une assistante en permanence qui s'appelle Liroy, qui est une jeune fille de 25 ans, qui parle parfaitement le français, qui a fait des études en France et qui a eu envie de rentrer dans son pays et de connaître son pays, qu'elle ne connaissait pas, puisqu'elle avait fait des études longues et beaucoup à l'étranger. Et donc, toutes les deux, on est parties à la découverte de ce pays. J'ai eu un peu un vertige le premier jour en voyant la carte de Chine qui est derrière votre dos, en me disant que ça allait être vraiment difficile. Mais toutes les deux, petit à petit, on a réussi à monter des sujets. Et donc le quotidien, c'est essentiellement un travail de desk, malheureusement. Tous les jours, il faut se tenir au courant de ce qui se passe. Donc Liroy épluche la presse chinoise, me fait une revue de presse. Et moi, je lis tout ce que je peux sur la Chine, dans ce qui paraît dans la presse internationale, essentiellement anglo-saxonne, italienne et française, puisque c'est les langues que je parle. Et donc voilà, c'est comme ça que je trouve mes sujets. J'ai bien évidemment les dépêches d'agence et je lis aussi les journaux anglophones chinois qui sont la presse officielle China Daily, dans laquelle chaque fois qu'on dit qu'un problème a été résolu, on se dit bah tiens, c'est qu'il y a un problème, donc on y va. Et puis essentiellement la presse de Taïwan et de Hong Kong également, qui est beaucoup plus libre et dans laquelle on trouve beaucoup de sujets, notamment le South China Morning Post de Hong Kong. C'est un excellent journal.
Alors, une fois que vous avez trouvé un sujet, il n'y a pas de problème pour effectuer une enquête, tout se passe bien, vous avez la liberté de faire absolument ce que vous voulez ou c'est encadré ?
Alors, une fois qu'on a trouvé le sujet, les problèmes commencent parce que tout ça passe par des autorisations nombreuses, multiples, notamment pour rencontrer les officiels. Les officiels ici, c'est... Ça peut être le directeur d'une ONG, un professeur d'université ou un député du peuple. Tout le monde est officiel et donc n'a pas de parole libre, bien évidemment. Donc on en passe quand même par là parce que c'est eux qui tiennent les informations, qui détiennent les informations, les chiffres, enfin les choses. Il faut avoir cette voix-là. Mais la plupart du temps, on y va en sachant qu'on sera déçu parce que la langue est quand même bien verrouillée. Et ensuite, moi, ce qui me plaît ici, c'est de faire du reportage. On en a fait presque en un an, on a dû en faire une quinzaine dans toute la Chine. Et là, c'est différent parce qu'on est au contact des gens. Et dans les campagnes, notamment dans les petites villes, les gens sont moins bridés et ont plus envie de parler. À Pékin, c'est plus difficile.
Alors, est-ce que l'approche des JO a changé la donne en termes de presse ?
Alors en théorie, la donne a nettement changé en janvier dernier, puisqu'une directive du ministère de la Propagande affirme que nous sommes libres de travailler n'importe où et comme nous le voulons, sans plus demander les autorisations dans chaque province avant d'aller interviewer qui que ce soit. Mais c'est réellement de la théorie, parce que moi j'ai été arrêtée 2 ou 3 fois, mes collègues sont arrêtés en permanence, en fait rien n'a changé.
C'est pas pire.
Je ne sais pas parce que j'étais pas là avant. Je suis arrivée au mois de septembre dernier, donc j'ai pas connu une période pire, mais d'après ce que disent mes confrères, ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Et il y a peut-être un durcissement sur certains sujets, notamment tous les sujets sensibles que sont le Tibet, Taïwan. Là-dessus, ça reste toujours extrêmement compliqué. Ouais.
Alors, quels sont vos sujets de prédilection ?
Mes sujets de prédilection, c'est un peu ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup, moi, aux gens et à l'histoire des gens, et essayer de comprendre comment on vit dans un pays comme celui-là, d'un milliard et demi d'habitants, et avec cette croissance énorme qui crée au quotidien des nouveautés qui sont inattendues. Donc j'ai toujours envie d'aller voir dans chaque secteur où se situent les gens et ce qu'ils ont dans la tête. Donc mes sujets, c'est très souvent des sujets sociaux et qui sont. J'ai beaucoup travaillé sur la politique de l'enfant unique, notamment sur les problèmes des expropriations des paysans, sur les problèmes de pollution. Et puis sur ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est de voir des choses inattendue pour nous, énormes, qui surgissent un peu partout, notamment à l'est du pays, sur la côte la plus civilisée et la plus riche, et aller voir un peu comment vivent les riches chinois, c'est toujours assez amusant aussi.
Alors, est-ce que vous avez des contacts avec vos collègues journalistes chinois ?
J'essaye à chaque fois que j'ai un reportage de contacter les journalistes dans les villes de province où je vais. Et là aussi, il faut passer par des autorisations et les 3/4 du temps, c'est impossible. C'est des gens qui aimeraient parler, mais qui ne sont pas autorisés à le faire. En revanche, à Pékin, il y a une presse. Il faut savoir que toute la presse en Chine est totalement surveillée et censurée. Il y a une charte des sujets desquels on peut parler et desquels on ne peut pas parler. Mais en revanche, moi, j'ai effectivement des contacts dans la presse économique, notamment la presse hebdomadaire. Et là, il y a des journalistes qui arrivent à faire des merveilles en contournant les directives et qui font des choses très intéressantes. Mon dernier reportage, c'est un ami journaliste qui me l'a fourni quasiment clé en main. C'est un type qui était dans la presse provinciale dans le Hunan et qui connaissait un problème de mine d'uranium abandonnée, laissée à l'abandon, sur laquelle les paysans cultivent leurs légumes, construisent leurs maisons. Tout ça a été abandonné depuis 20 ans. Et lui avait des contacts parce qu'il avait vécu là pendant 15 ans et qu'il avait pu faire un reportage que j'ai lu. Je l'ai ensuite appelé puisque je le connaissais. Et il nous a donné ses contacts. Mais sans lui, j'aurais jamais pu faire le reportage. Parce qu'il faut arriver sur place en ayant déjà une recommandation, sinon personne ne parle, surtout quand on est étranger et qu'on sait que toute personne qui parle à un étranger peut avoir des problèmes par la suite. Mais là, ça s'est très bien passé, un peu en catimini, mais ça s'est bien passé grâce à ses contacts avec ce journaliste chinois.
Alors comment la ville de Pékin vit-elle l'approche des JO dans quelques mois ?
C'est la grande effervescence à Pékin. C'est vraiment l'affaire du jour. On se demande même s'ils imaginent une vie après les JO, tellement on ne parle que de ça, on ne voit que ça. C'est de la propagande à tous les coins de rue, des slogans, des campagnes de civilisation des citoyens, de la publicité partout. La ville a complètement, depuis 4 ans, la ville a complètement orienter son développement en fonction de ces Jeux Olympiques, qui sont pour la Chine entière une vitrine extraordinaire et qu'elle veut, à travers laquelle elle veut montrer une image de la Chine moderne et en progrès. Et donc là, on se confronte à une propagande extraordinaire, quoi, entre les déclarations et la réalité. C'est vraiment le jour et la nuit, souvent.
Alors justement, parmi les slogans, il y a un monde, un rêve, où rien n'est impossible. Mais finalement, qu'est-ce que pensent les Pékinois de ces slogans qui sont fédérateurs, mais finalement hyper commerciaux?
C'est très difficile de savoir ce que pensent les Pékinois. Ceux que je rencontre dans les milieux que je fréquente, qui sont plutôt des artistes ou des étudiants ou des... Moi, je vois pas mal de gens qu'on appelle dissidents, entre guillemets. Ceux-là, ça les intéresse pas du tout et ils sont pas du tout épatés par cette vitrine, justement. Enfin, mais en revanche, j'ai l'impression, à travers quelques reportages que j'ai faits, qu'il y a un véritable enthousiasme de la population et ça nourrit un sentiment national très fort. Les gens se retrouvent, c'est une fierté. Pour les gens plus simples, je pense que c'est un véritable enjeu. Il y a des volontaires partout pour aider à l'organisation des JO. C'est les campagnes. Pour la propreté, pour l'écologie, pour tout ça sont très très suivis. Je pense que les gens sont globalement satisfaits de ça, mais parce qu'il y a une telle propagande pour dire que ces JO sont merveilleux que les gens sont un peu obligés de le croire aussi, hein, j'ai l'impression.
Alors en août 2008, que restera-t-il du vieux Pékin?
On peut déjà le dire aujourd'hui, en décembre 2007. Moi, j'habite le dernier quartier où de maisons basses et de ruelles qu'on appelle les Routongs. Et déjà en un an, j'ai vu disparaître des quartiers entiers. Et ce mouvement a commencé il y a une dizaine d'années. Et je pense qu'ils sont arrivés au bout, là. Ils gardent quelques endroits touristiques dans lesquels ils ont remis des rickshaws et des restaurants soi-disant typiques. Mais les habitants pékinois... sont tous partis de ces endroits-là. Ils sont tous relogés au-delà du 4e, 5e périphérique dans des immeubles, mais depuis longtemps déjà.
Alors, on en est à 5 périphériques, 6 en construction. Vous pensez qu'il y aura 10 périphériques un jour?
Le 7e est prévu déjà, le tracé est fait. Je ne sais pas s'il y aura 10 périphériques. J'ai lu l'autre jour que Pékin voulait arriver à 22 millions d'habitants en 2015. Donc je crois qu'on est aujourd'hui à 15 millions. Mais c'est le trajet de toutes les villes chinoises, de toute façon. Toutes les villes chinoises grossissent. Je suis allée à Chongqing sur le Yangtze il n'y a pas longtemps. Chongqing fait aujourd'hui 10 millions d'habitants et en 2015, il faudra qu'elle soit la plus grosse mégapole chinoise avant Shanghai, c'est-à-dire 25 millions d'habitants, je pense. Ils veulent en faire la plus grosse mégapole du monde.
Ça tourne un peu la tête. Alors, comment gérer cette modernisation générale et cette croissance effrénée? Est-ce que vous pensez finalement que ce serait possible à Pékin de ne pas détruire le patrimoine?
Je crois que c'est déjà fait, hein. Vous vous promenez dans les villes, je ne sais pas ce que vous voyez du patrimoine chinois, mais il reste plus grand-chose. Il reste quelques temples, il reste évidemment la Cité interdite, les parcs qui restent assez beaux, mais ce qui est des constructions traditionnelles, tout a disparu déjà.
Oui, mais
Je crois d'ailleurs que ça correspond. Enfin, moi, un Chinois m'a expliqué, j'ai fait un reportage justement là-dessus, sur la destruction du vieux Pékin, et un Chinois m'a expliqué que c'était quelque chose que la Chine avait toujours connu. C'est-à-dire que la transmission en Chine ne se fait pas sur le patrimoine matériel, mais sur le patrimoine immatériel. On transmet un savoir-faire, mais on transmet pas des vieilles pierres. On transmet pas des maisons, des palais, des choses comme ça. La cité interdite a été refaite 15 fois depuis toujours. Ce qu'on visite aujourd'hui, la cité interdite, date d'il y a 6 mois. Hein. Mais ça a été refait exactement dans l'esprit de traditionnel du feng shui et c'est ça qui est transmis. Et quand ici ils rasent un quartier, quelquefois ils décident de reconstruire et de refaire des cours carrés qui sont ces maisons traditionnelles pékinoises construites en carré autour d'une cour, et ils refont exactement à l'identique.
Mais quelle retombée attend le gouvernement chinois des JO?
Ben, je vous disais tout à l'heure, c'est une vitrine essentiellement.
Donc des retombées économiques.
Ben, les retombées économiques, de toute façon, vu la croissance de 11% et demi cette année de la Chine, c'est pas les JO qui poussent la croissance. Je pense qu'ils attendent une reconnaissance internationale très forte. C'est-à-dire que les JO, c'est une belle idée, c'est une belle idée humaniste, Pierre de Coubertin, les Grecs. Et je pense que la Chine veut à tout prix entrer dans le cercle de cette légitimité-là. et au prix de contorsions quand même assez ahurissantes, puisque tout ce qui est droit de l'homme ici reste quelque chose de totalement tabou et qui ne bouge pas.
Alors justement, à propos des droits de l'homme, la Chine des campagnes est un endroit où les droits de l'homme ne sont pas toujours respectés. Comment cette Chine des campagnes aborde les JO? Est-ce qu'il s'y intéresse?
Moi, je suis allée dans des campagnes où il n'y a pas l'électricité et pas la télévision, où les gens gagnent 3000 kuai par an, qui est 300 euros. C'est totalement en dessous du niveau de pauvreté. Donc ces gens-là, les JO, je pense que c'est très loin, mais la Chine est un pays immense. Et les JO, ça va être cantonné à Pékin, aux villes de la côte, et je crois que pour eux, c'est quelque chose de totalement abstrait. Ils sont pas du tout... Le problème des campagnes chinoises, c'est une pauvreté énorme. Et c'est la survie au quotidien qui compte.
Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir pour ces 800 millions de paysans chinois? Quel est l'avenir, en fait?
Bah, je pense que leur avenir a été décidé il y a une dizaine d'années de ça, au moment où la Chine a commencé sa politique d'ouverture et de réforme, et on a commencé à avoir besoin de main-d'œuvre énorme dans les ateliers de la côte. Et cette main-d'œuvre a été recrutée chez les paysans qui sont devenus des migrants dans leur propre pays. Et c'est eux qui font tourner l'économie chinoise. Ce sont des gens qui accèdent à des salaires très inférieurs à ceux des grandes villes, de l'ordre de 120 euros ou 130 euros par mois, pour travailler dans des conditions souvent très dures, et qui alimentent totalement l'économie de la Chine. Et vu la croissance, le besoin en main-d'œuvre s'accentue chaque année, et le mouvement de migration des campagnes vers les villes, engagé, je vous dis, il y a une dizaine d'années, est en train de s'accélérer énormément. Je pense que la volonté du gouvernement chinois est de vider les campagnes pauvres. Il restera certainement des campagnes agricoles au centre de la Chine, dans les plaines. Mais en revanche, tout ce qui est agriculture de montagne ou de terre plus pauvre, c'est amené à disparaître. J'ai fait des tas de reportages où tout le monde, les officiels expliquent tous qu'il y a un plan de migration de population vers les villes. On vide les campagnes de façon délibérée et à grande échelle.
Alors justement, cette réévaluation du yuan qui ne manquera pas d'arriver, alors c'est une bonne chose pour la Chine, j'imagine, mais pour l'Europe, c'est beaucoup moins bien. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous êtes bien affirmative en disant qu'elle ne manquera pas d'arriver. Ça fait des années et des années que les États-Unis et l'Europe également réclament cette réévaluation du yuan. Et parce qu'évidemment, un yuan faible permet des exportations faciles pour la Chine. Mais la Chine freine. La Chine, Nicolas Sarkozy est encore venu il y a très peu de temps pour demander une révolution du yuan. Il y avait un sommet européen, sino-européen le lendemain qui commençait, où ce sujet était la priorité. Et la Chine répond toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ils feront ça à leur rythme. C'est-à-dire qu'ils ne veulent absolument pas d'une réévaluation. Ils font des ajustements ponctuels. Il y avait encore des dépêches ce matin pour dire ça. Ils ne vont pas réévaluer rapidement. Mais vous savez, c'est compliqué parce que les pays étrangers ont beaucoup d'intérêt en Chine et ils ont aussi intérêt à... C'est beaucoup d'étrangers qui exportent de Chine. C'est beaucoup d'Allemands, de Français, d'Italiens, d'Américains qui ont des entreprises ici et qui exportent. Donc ceux-là ont intérêt à avoir un yuan faible aussi.
Quelle place occupent les entreprises françaises en Chine aujourd'hui?
Je crois que c'est une place assez limitée. Les Allemands font 4 fois plus d'importations en Chine et d'exportations. Et les Français sont très bien implantés depuis une quinzaine d'années dans des secteurs industriels forts, que sont l'aéronautique, les voitures avec Peugeot. C'est les avions, le domaine de l'énergie, le domaine également de l'environnement. Veolia est très fort ici. Donc toutes ces grosses boîtes sont très bien implantées, ont des gros contrats et des grosses structures ici. Et je pense que le tableau est beaucoup plus sombre pour les petites entreprises françaises qui essaient de s'installer ici. Celles-là ont vraiment beaucoup de problèmes. Elles sont toutes obligées de s'associer avec des Chinois. Et là, les problèmes commencent parce que la loi n'est pas la même, le droit chinois est extrêmement compliqué, les mentalités ne sont pas les mêmes. Et récemment, l'affaire Danone a illustré en grand les problèmes que rencontrent les entreprises étrangères en Chine.
Mais la joint venture est toujours obligatoire, donc ?
Toujours obligatoire, oui, à 51%. Oui. Donc c'est un peu la limite du système. Et les Chinois ont tous la même exigence, c'est le transfert de technologie. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose sur lequel les Français résistent pas mal, plus que les Américains ou même que les Allemands.
Donc c'est ça qui nous limite aussi.
Oui, du coup, on passe pas en premier, oui, bien sûr, puisque c'est la priorité des Chinois.
Quel est le salaire moyen à Pékin et ensuite dans le reste de la Chine ?
Alors c'est très difficile de trouver un salaire moyen parce que ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici qui gagnent 800 GMB, c'est-à-dire 80 euros, et il y a des gens qui gagnent 20 000 euros par mois. On voit les voitures, on voit le train de vie des gens, on voit les restaurants à 200 euros le repas qui sont pleins. Donc trouver une moyenne dans tout ça, on peut essayer de creuser dans la petite classe moyenne chinoise que sont les professeurs, les fonctionnaires. Et cela, l'autre jour, un prof de fac chinois me disait, qui avait une quarantaine d'années, me disait qu'il gagnait 4000 yuan par mois, c'est-à-dire 400 euros.
Ça ne fait pas beaucoup.
En fin de carrière, il espérait avoir 6000 et que ses collègues débutants étaient à 2000. Ça fait pas beaucoup. Et lui, il pensait ouvrir un restaurant de nouilles rapides.
Oui, effectivement.
Et il était spécialiste de mathématiques fondamentales.
Ah, ça ternit légèrement l'image de la recherche en Chine.
Peut-être pas l'image de la recherche, mais l'image du niveau de vie des chercheurs, oui.
Ça, ah, voilà, bien, c'est ouais. Ça. Oui. Quel est l'avenir des Pékinois ? Est-ce que la ville sera verte comme on le promet aujourd'hui ?
Elle est déjà très fleurie. En un an, on a vu pousser un nombre de massifs de fleurs incroyables. Oui, je crois qu'il y a un véritable effort sur, encore une fois, sur la vitrine. C'est-à-dire qu'on plante des arbres. En une nuit, on peut voir apparaître un jardin public. Ils plantent des arbres de 15 mètres de haut. Ça va très vite. C'est assez réussi en général. Et réussit des choses. Après, la ville verte, il y a quand même 1000 voitures de plus par jour qui circulent à Pékin. Et rien n'est fait contre ça. Donc, est-ce que ça va être une ville verte ? Il y a beaucoup de déclarations, d'intentions, sur les, notamment la délocalisation des industries lourdes tout autour de Pékin. Mais l'une des plus grosses aciéries est en train de déménager. Ils la mettent dans le port de Tianjin, qui est à 100 km, et tous les météorologues disent que, vu les vents, on récupère immédiatement les fumées nocives. Donc, l'avenir vert de la Chine n'est pas quelque chose qui me rend très optimiste. J'ai vu beaucoup de choses abominables. Des catastrophes, des fleuves rouge-vert, des paquets d'algues bleues, un mètre d'algues bleues sur des lacs, c'est quand même... Il n'y a absolument aucune politique générale. C'est-à-dire qu'il va y avoir des initiatives locales où, effectivement, des normes pour les entreprises, etc. Et puis, là, à 30 km plus haut, il y aura des industries chimiques qui déversent leur saleté dans le fleuve. Donc, tant qu'il n'y aura pas une politique générale... Mais c'est très difficile parce que la Chine accomplit sa révolution industrielle vraiment en accéléré. C'est-à-dire qu'en 10 ans, elle a fait ce que nous avons connu, nous, en 100 ans. Avec des proportions de population, de besoins énergétiques qui sont bien plus importantes. Donc tout est démesuré et pour l'instant, je ne pense pas que les Chinois aient compris la priorité de l'environnement sur le niveau de vie. Ils sont en train de rattraper un niveau de vie pour beaucoup de Chinois minimal. Donc l'environnement, on le comprend, n'est pas dans les priorités.
Ça veut dire que demain, les problèmes ne viendront peut-être pas de l'explosion sociale, mais de l'environnement ?
Ça va ensemble, parce que très souvent, les problèmes sociaux naissent de l'environnement. Quand des paysans ne peuvent plus irriguer leurs champs parce qu'il n'y a plus d'eau, quand il n'y a plus l'accès à l'eau potable, quand on découvre les uns après les autres des villages du cancer avec des proportions absolument énormes de gens malades de la pollution à cause des industries, ça déclenche des conflits sociaux, donc c'est très lié.
Pascal Nivelle, merci.